Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a évoqué mardi dernier la dissolution de Génération Identitaire, ce groupuscule d'extrême droite connu pour ses actions choc, a une nouvelle fois frappé lors d'une opération anti-migrants dans les Pyrénées. Le ministre de l'Intérieur s'est dit scandalisé et a demandé une enquête visant donc la dissolution éventuelle de ce groupuscule. Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Vous êtes politologue et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques lié à la Fondation Jean Jaurès. Que pensez-vous de cette demande de dissolution de Génération Identitaire ?
Je constate d'abord qu'il y a en ce moment beaucoup de demandes de dissolution qui émanent de tous les bords politiques et visent pour les uns des organisations d'extrême droite, pour les autres des associations qui portent un discours de l'islam politique et enfin, du côté de la droite, on entend des voix qui réclament pêle-mêle l'interdiction des Black Blocs ou d'autres formations d'ultra-gauche qui participent aux affrontements violents avec la police. Donc c'est une situation assez problématique parce que les décisions de dissolution sont par définition des décisions à caractère exceptionnel. On ne peut pas se mettre à interdire toutes les organisations qui prônent la radicalité dans le champ politique. Non seulement c'est une décision qui doit rester exceptionnelle, mais elle est sévèrement encadrée par l'article L212-1 du Code de la Sécurité Intérieure qui reprend une vieille loi de 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Alors, dans le cas précis de Génération Identitaire...
De groupes de combat, pardonnez-moi Jean-Yves Camus, pour que l'on comprenne bien, pour que l'on puisse dissoudre... Pour que l'on puisse dissoudre, il faut donc que l'on ait affaire non pas à une organisation qui porterait, je ne sais pas, des idées qualifiées de dangereuses. Très compliqué, évidemment, de qualifier une idée de dangereuse, mais il faut qu'on ait affaire à des groupes de combat.
Alors, il faut très exactement qu'on ait affaire à des groupes qui, de manière individuelle ou cumulative, réunissent l'un ou plusieurs des 7 critères énoncés dans l'article qui peuvent être effectivement la constitution d'un groupe de combat ou d'une milice privée ou qui peuvent être, alinéa 6, le fait de propager des idées haineuses ou incitant à la discrimination. C'est à mon avis les deux principaux alinéas qui pourraient être retenus contre Génération Identitaire. Je rappelle par exemple que lors du procès en appel qui avait vu les militants de Génération Identitaire relaxés par le parquet de Grenoble dans l'affaire de l'opération anti-migrants qui avait eu lieu dans les Alpes, la précédente, pas celle des Pyrénées, la précédente. Le parquet avait à la fois relaxé, alors qu'il y avait eu condamnation en première instance, et admis que le groupe présentait un caractère quasi militaire. Donc on voit bien qu'on est toujours à la
lisière.
À la lisière. Et au final, la décision, elle est toujours politique. C'est-à-dire que tout dépend aussi de la pression qui est exercée. Le ministre de l'Intérieur, s'il déclenche la procédure de dissolution, va se baser sur l'évaluation des services de renseignement, notamment, qui va lui décrire la dangerosité précise du mouvement en question par rapport aux articles de la loi, mais au final, la décision qu'elle prendra sera éminemment politique. Il s'agit à un moment donné, pour un ministre de l'Intérieur, qui va présenter au Conseil des ministres donc ce rapport à la dissolution, il s'agit pour un ministre de l'Intérieur d'affirmer son autorité, d'affirmer le fait qu'il prend tel ou tel problème au sérieux, que ce soit les mosquées radicales ou que ce soit les groupes d'extrême droite. Si la pression est véritablement trop forte, alors le ministre ne peut plus faire grand-chose sinon prononcer la dissolution. Ensuite, il y a le contrôle du juge administratif, notamment de la haute juridiction, du Conseil d'État. Il est arrivé que le Conseil d'État revienne sur des décisions insuffisamment ou mal motivées. Il y a toujours un petit risque juridique, donc il faut très bien ficeler le dossier pour être sûr que ça passe.
Mais alors, quand vous évoquiez toutes les demandes de dissolution, alors si on prend par exemple d'un côté la demande de dissolution vis-à-vis d'associations qui sont censées encourager le terrorisme islamiste, et de l'autre la demande, ou en tout cas l'intention de dissoudre Génération Identitaire, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'opérer une pression équivalente pour le ministre de l'Intérieur ?
Alors, la dissolution des associations qui prêchent un islam radical et prônant l'action terroriste a sans doute dans l'opinion publique une assise beaucoup plus large que l'interdiction de groupuscules politiques, quels qu'ils soient. Dans un cas, on parle de terrorisme. Dans l'autre cas, personne ne dit que Génération Identitaire a la capacité d'être un groupe terroriste. Il n'en est absolument pas question. Et si certains le disent, ils se trompent assez lourdement. Mais il y a effectivement, enfin, ça dit quelque chose de l'état de notre société, de notre manière de faire de la politique, de traiter, de vouloir traiter toutes les radicalités politiques par, j'allais dire, le marteau-pilon, qu'est la dissolution, alors qu'on dispose tout simplement de l'outil pénal. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une infraction, par exemple, l'opération anti-migrant dans les Alpes, eh bien, on poursuit au pénal et on a la possibilité de condamner les individus qui ont pris part à l'opération. On a la possibilité également d'imposer des sanctions financières.
Quel motif ?
Ça fait toujours...
Quel motif ?
Là, dans le jugement de première instance de l'affaire des Alpes, les juges avaient retenu le fait que le groupe Génération Identitaire avait pu provoquer dans la population une confusion entre leur activité d'arrêt des migrants à la frontière et cette activité qui réservait en principe à l'État, aux forces de police, à la police des frontières, voire la gendarmerie. Le juge d'appel n'a pas retenu parce que il a expliqué que les militants de Génération Identitaire ne portaient pas d'uniforme de police ou de gendarmerie, par conséquent, il n'était pas avéré que le citoyen moyen les voyant opérer puisse les confondre avec des forces de police.
Lorsqu'il est question de dissoudre cette association, là en l'occurrence Génération Identitaire, Jean-Yves Camus, on songe aussi à ce qui s'est passé aux États-Unis, sans qu'il y ait évidemment de lien organique entre les deux, mais enfin l'idée ce serait que ces mouvements d'extrême droite, d'ultra-droite, je ne sais pas comment les qualifier, auraient une dangerosité intrinsèque et qu'ils pourraient constituer une menace pour la démocratie. Et justement, quel lien faire entre cette dangerosité possible et le groupuscule Génération Identitaire?
En termes de dangerosité, et par rapport aux images que l'on a vues de la prise d'assaut du Capitole le 6 février, moi je n'imagine pas les militants de Génération Identitaire déclencher une telle opération ou participer à une telle opération. Non, Génération Identitaire, c'est avant tout de la mise en scène permanente d'actions coup de poing. Ce sont des gens qui manient très bien les outils médiatiques, hein, la vidéo, les réseaux sociaux, et qui se filment en action, qui mettent immédiatement sur les plateformes de vidéo leur action en image pour en décupler l'impact. Mais ces actions, si certaines d'entre elles ont traîné quelques coups, quelques bousculades, je pense notamment à celle contre les bureaux de SOS Méditerranée à Marseille, n'ont jamais revêtu l'aspect d'une action concertée visant à envahir un lieu où se forge la démocratie. Enfin, en clair, il n'y a pas eu de 6 février 34 de Génération Identitaire. Si vous... Il n'y en aura, jamais. La dérive terroriste, je n'y crois pas. Les militants de Génération Identitaire ne sont pas dans cette optique-là. Ils ont une sorte d'agitprop culturel qui fait avancer, qui fait infuser un certain nombre d'idées. L'idée de la remigration, l'idée du grand remplacement, l'idée de l'impossibilité à s'assimiler des étrangers d'origine extra-européenne, tout ça infuse bien évidemment dans notre jeu politique, dans le débat, mais c'est pas du terrorisme.
Bon alors, si je prends la place du procureur, il paraît qu'il y en a beaucoup dans notre pays, Jean-Yves Camus, je peux vous dire que tout cela est une pente glissante et que si on laisse s'installer ce type de groupuscule, on peut s'acclimater à ses idées et que ainsi de suite, on peut aboutir à des mouvements qui seraient beaucoup plus larges, beaucoup plus violents.
Alors précisément, Génération Identitaire est plutôt le plus large, c'est-à-dire que dans la galaxie des groupuscules d'extrême droite française, c'est-à-dire tout ce qui est à droite du Rassemblement National, c'est largement, avec, on va dire, entre 600 et 800 militants de noyaux durs et un millier de sympathisants environ, le groupuscule qui a le mieux réussi. Mais s'il a le mieux réussi, à mon avis, ça n'est pas parce qu'il propose des actions illégales qui peuvent mettre en danger la République, ce qui est une raison possible de dissolution, mais encore une fois, parce que ces actions qui se destinent à un public de jeunes militants, sont souvent des jeunes étudiants, des jeunes professionnels, sont, j'allais dire, magnifiquement mises en scène. C'est-à-dire que les vidéos ont un impact, tout ça, une sorte d'appel romantique à l'action et à la sauvegarde de la civilisation européenne. c'est avant tout parce que c'est bien fait que ça marche, si vous voulez. Mais sur le terrain, la bande terroriste, je la vois pas du tout. Ça reste quand même la principale raison de dissolution. Si on peut traiter par le pénal, si on peut traiter au coup par coup les individus qui ont commis une infraction et du même coup taper à la caisse, je pense que dans un État respectueux des libertés individuelles et du droit des associations, qui n'est jamais absolu, bien évidemment, il vaut mieux traiter par le pénal. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est ce qui est fait. C'est-à-dire que les personnes qui ont été identifiées sur les vidéos de la prise du Capitole vont être poursuivies individuellement. Et s'il faut me permettre, ça ne va pas être gratuit pour certaines d'entre elles. Mais les groupes, pour autant, parce qu'il n'y a pas de culture de la dissolution, ne seront pas dissous. Certaines seront suivies de plus près par les services de renseignement intérieurs américains. Mais dans les pays anglo-saxons, la culture de la dissolution, si vous voulez, ça n'existe pas. Il y a eu, en Grande-Bretagne, un mouvement d'extrême droite dissous entre 1945 et aujourd'hui.
Et là aussi, lorsque l'on évoque la politique, puisque vous disiez tout à l'heure, finalement, ce sont des pressions qui sont d'ordre politique qui sont exercées sur le parquet. Lorsque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit qu'il faut dissoudre Génération Identitaire, il y a peut-être une arrière-pensée qui est tout à fait politique. Le lien qu'aurait, je mets ça au conditionnel, et c'est la question que je vous pose, Jean-Yves Camus, entre ce groupuscule et le Rassemblement National.
Alors, il y a d'anciens cadres de la mouvance identitaire qui sont devenus des élus du Front National ou des collaborateurs d'élus, pardon, du Rassemblement National. Ça, c'est un fait établi. Maintenant, sur la question de l'idéologie, Marine Le Pen ne se prononce pas sur le grand remplacement. Elle a quelques préventions à l'égard de cette idée à laquelle elle trouve un arrière-plan complotiste. Elle ne se prononce pas davantage sur la remigration, c'est-à-dire le fait de renvoyer de manière autoritaire les étrangers non européens dans leur pays d'origine. Le Rassemblement National n'est plus sur la thèse de feu FN qui était l'inversion des flux migratoires. Il est sur l'arrêt des flux migratoires, c'est pas complètement la même chose. Après, il resterait à savoir évidemment ce qu'à la base du parti t'en pense vraiment, mais ça c'est une autre affaire. Puis il faut se rappeler que comme Philippe Vardon, qui était un des principaux dirigeants du mouvement identitaire, a mis, a voulu intégrer le Front National, où il fait aujourd'hui une belle carrière d'élu local, Marine Le Pen a été extrêmement réticente. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Elle avait peur parce que le fait d'intégrer un cadre dirigeant de l'organisation identitaire pouvait nuire à sa stratégie de diabolisation. Donc il y a toujours, si vous voulez, une certaine distance qui n'empêche pas sans doute que Marine Le Pen trouve détestable l'idée d'interdire Génération Identitaire, et elle s'est exprimée là-dessus. Il y a sans doute sur un certain nombre de thèmes et sur des trajectoires individuelles un cousinage, mais je pense qu'on n'atteindra pas l'image de Marine Le Pen, candidate à la présidentielle de 2022, en disant Génération Identitaire.
Mais pour autant, est-ce que l'on peut imaginer que Génération Identitaire est en quelque sorte l'équivalent pour le Rassemblement National, je ne sais pas, de ce que les trotskistes ont été, fut un temps pour le Parti Socialiste lorsqu'il y a eu de l'entrisme avec des gens connus qui ont été trotskistes, Lamberti, je ne sais pas, Lionel Jospin par exemple, Jean-Yves Camus. Est-ce qu'on a affaire à des mécanismes qui sont parallèles et donc en touchant l'un, eh bien on pourrait essayer d'atteindre l'autre?
Alors on a affaire à un mécanisme qui est le suivant. Le bloc identitaire s'est un temps enregistré comme parti politique. Il a voulu mener sa barque tout seul, principalement à partir de Nice, qui était son fief, et de là dans sa région. Il a réalisé des scores honorables, les scrutins cantonaux notamment, les scores honorables c'est entre 5 et 7%, hein. Mais il n'a jamais réussi à percer, ni aux élections municipales, ni aux élections régionales. Donc, les dirigeants et les cadres les plus malins des identitaires ont un peu regardé autour d'eux, se sont dit, bon, on arrête d'être un parti politique, il n'y a pas de perspective, où va-t-on pour ceux d'entre nous qui voulons faire de la politique sérieusement et, j'allais dire, durablement? Bah, on va au Front National, Rassemblement National, parce que c'est là que la proximité idéologique est la plus forte. Mais je crois que ces décisions individuelles de joindre le FNRM, elles étaient avant tout dictées par, l'intérêt bien compris de ceux qui ont envie de faire de la politique, sinon leur métier, du moins leur activité principale pendant longtemps. C'est un choix, honnêtement, qui ne se discutait même pas en termes d'opportunité.
Et donc, lorsque l'on prend ce parallèle avec l'extrême gauche, parce que là, on voit que la question des Black Blocs, vous aviez évoqué la demande d'une partie de la droite de dissoudre les Black Blocs, mais là, on a affaire encore à quelque chose de très différent, puisque les Black Blocs ne se constituent pas, à mon sens ou à ma connaissance, comme un groupe uni, une association, ils n'ont pas pignon sur rue.
Alors, il n'est pas nécessaire qu'une association soit constituée pour qu'elle soit dissoute, puisque la loi prévoit la dissolution de ce qu'on appelle les groupements de fait. Mmh. Les groupements de fait, ce sont des organisations informelles qui fonctionnent comme une entité déposée en préfecture de police, mais qui n'ont pas cette existence légale.
Mmh. Donc,
on peut les dissoudre.
Donc, il est possible de les dissoudre, mais le lien entre les Black Blocs et la gauche, là, c'est quelque chose de beaucoup plus lâche, si j'ose dire.
Bon, ben, si on dissout les Black Blocs, très honnêtement, on met un immense coup d'épée dans l'eau, parce qu'on dissout quelque chose qui est bien davantage une forme d'action lors des manifestations qu'un mouvement. Les Black Blocs, c'est une manière d'intervenir dans une manifestation, de s'infiltrer dans une manifestation et d'en prendre le contrôle. Après, reste à savoir effectivement qui se rassemble. Donc si on interdit les Black Blocs, on interdit en fait rien du tout.
Et enfin,
les moyens par la police classique d'interpeller les gens qui se mettent en formation Black Bloc, c'est-à-dire qui se changent au milieu de la manif et qui ressortent habillés tout en noir et commettent des déprédations, ceux-là, on peut les interpeller, on peut souvent les interpeller en flagrance pour les actes délictueux qu'ils ont commis.
Oui, mais alors bon, évidemment, la demande de dissolution, elle ne servira à rien. Dernière chose, Jean-Yves Camus, le fait de vouloir dissoudre des mouvements présentés comme étant des soutiens ou des relais du terrorisme islamiste, est-ce que ça pourrait avoir une efficacité ?
Ça a une efficacité, incontestablement, notamment lorsque c'est accompagné d'une fermeture administrative du lieu de culte, et d'un gel des avoirs, mais ça vient trop peu, trop tard. C'est-à-dire que toutes les mosquées qui ont été, toutes les associations cultuelles du gérant des mosquées qui ont été frappées par les mesures de dissolution étaient connues depuis longtemps pour être des lieux de prêches radicaux. Et on a, me semble-t-il, attendu trop longtemps. Maintenant, on ne va pas non plus dire qu'il s'agit d'une mauvaise décision. Mieux vaut qu'elle intervienne tard, mais qu'elle intervienne. Ceci étant, les mesures qui ont été prises ne couvrent absolument pas le champ de la totalité des mosquées qui, en France, se rattachent à la mouvance radicale.
Merci Jean-Yves Camus. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques au sein de la Fondation Jean Jaurès. Dans une vingtaine de minutes, nous recevrons le philosophe allemand Hartmut Rosa. Il est parrain de la Nuit des idées 2021, une nuit des idées associée à France Culture. C'est la 6e édition de la Nuit des idées sur le thème des proches. Cette expérience numérique de 24 heures, coordonnée par l'Institut français, se veut un véritable tour du monde de la pensée. Et on débutera donc ce tour du monde dans une vingtaine de minutes, parce qu'en attendant, il est 8 heures sur France Culture.